Teachers numéro 32. On reçoit Patricia, prof de lettres dans l'Académie de Lyon. Des petits soucis de son en début d'émission qui sont vite rentrés dans l'ordre. Voilà, nous en excusons.
Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de E-Teachers. Et je vais pas me tromper en vous disant que c'est le numéro 32. Salut Jeff.
Bon, salut à tous, content d'être là. Ouais, c'est bien le numéro 32, tu t'es pas trompé.
Voilà. Je suis bien content d'être de retour. Je m'excuse pour mon absence du podcast précédent, mais mes fonctions professionnelles m'ont amené à devoir m'absenter quelques temps et voilà, j'ai vraiment pas pu venir. Alors c'était pas un faux bon, mais voilà.
On a essayé de faire au mieux en tout cas il y a 15 jours. Hein.
Mais bon. Ouais, mais vous en êtes très bien sortis et puis de toute façon personne n'est indispensable. Mon petit Jeff, ce soir nous avons avec nous une invitée. Voilà, on est très content puisque sans le savoir, c'est quelqu'un de notre région, de notre académie, pas très loin. Bon, ça n'a pas spécialement d'importance, mais bon, c'est rigolo. Et voilà, on va la laisser se présenter tout à l'heure. Mais salut Patricia. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques retours, Jeff, sur l'émission précédente.
Eh ben, sur l'émission précédente, on n'a pas eu spécialement de retour. On a eu un petit retour, c'est par rapport, peut-être toi qui devrais presque plus en parler que moi, c'est sur la lettre tissée du langue où on a été cité, le podcast E-Teachers.
Oui, donc ça c'est un petit peu la consécration. Non, on est super content, tout simplement. On a été effectivement cité dans la lettre tissée du. D'ailleurs, je vous invite tous à vérifier, mais dans chaque discipline, hein, émet le ministère et particulièrement ce qu'on appelle le bureau des usages, enfin, on va dire la branche TIS de chaque discipline pour faire court, au ministère et émet chaque mois, ou peut-être pas chaque mois suivant les disciplines, ça dépend, une lettre TIS est due, avec plein d'infos, plein de ressources intéressantes, et voilà, on est content puisque on a été cité, donc, j'ai toujours dit qu'E-Teachers était une démarche purement et reste une démarche purement individuelle, liée certes avec nos emplois de tous les jours, bien évidemment, mais pas du tout demandée ou je ne sais quoi par l'institution, quoi. Hein, c'est pas du...
Franchement, pour le plaisir avant tout.
Hein. C'était vraiment pour le plaisir, avec le ton libre qu'elle a justement, et voilà. Mais on est content quand l'institution reconnaît quelque part ce qu'on peut proposer. Donc on est bien content et je vous invite en tout cas dans chacun de vos matières à aller consulter cette lettre Tissédu qui est souvent très riche et qui fait également une super veille. Voilà.
Tout à fait. Avant de commencer, toujours pour réagir en direct, on a de petits chats sur eteachers.fr/live. Vous marquez votre petit pseudo et puis vous connectez au chat si vous avez une question à poser en direct. Voilà. On attaque.
On va attaquer. Donc, écoute, c'est parti. Bienvenue, Patricia. On est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous parler donc rapidement de ton parcours, mais de ce que tu fais aujourd'hui d'innovant, entre guillemets, avec tes classes, d'abord dans quelle matière tu es, voilà un petit topo dans un premier temps.
Oui, alors bonsoir, donc je suis Patricia Bonnard, je suis professeure de français en collège, ça va faire une vingtaine d'années que j'enseigne, donc je me suis pas mal baladée entre le lycée et le collège, entre différentes académies, là je suis sur l'Académie de Lyon. Et depuis 2009, après avoir été longtemps en ZEP, je suis dans un collège, on va dire, dit rural, mais je vais mettre des guillemets parce que c'est quand même pas tout à fait ça à Genasse. Et depuis 2010, le collège avait une politique pour aller dans le sens du numérique, donc les ordi, les vidéos proches. Et en novembre 2013, on a été doté d'iPad mini, qui fait qu'évidemment, au niveau de ma pratique, ça m'a donné plein d'idées. Et j'enseigne le français, je ne sais plus si j'avais précisé. Donc voilà. Et en ce qui concerne les moyens, enfin ce que j'utilise, bon, personnellement, j'ai un blog qui me sert à diffuser. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le côté diffuser de ce que je fais, c'est plutôt pour partager les expériences. Parce que moi, personnellement, je reconnais qu'Internet, c'est quand même une de mes premières sources quand je cherche quelque chose et que j'apprécie de trouver des blogs, des choses qui me donnent des pistes. Donc, du coup, j'essaye moi aussi de mettre en commun à travers ce biais-là.
Donc, si, ouais. si je comprends bien, ton blog n'est pas pour l'instant utilisé en priorité pour tes élèves, c'est pour partager tes ressources, partager tes trouvailles et plutôt pour tes pairs en fait.
Ouais, en fait, bah oui et non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux. Il y a le côté pour les élèves. Au début, il y avait vraiment des choses qui sont à destination des élèves. Et puis après, j'ai eu des demandes d'enseignants qui me disaient, vous parlez de telle et telle chose, ce serait bien qu'on puisse savoir justement quels sont les documents que vous avez utilisés, quelles démarches vous avez faites. Donc j'utilise un peu sur ces deux domaines. Mais je reconnais que pour les élèves, comme j'utilise pas mal la vidéo en faisant notamment plein de petites capsules vidéo, ils sont plus souvent à me dire on va sur votre chaîne YouTube qu'ils ne vont sur le blog.
D'accord.
Donc c'est vrai que le blog, oui, ils y trouvent des éléments, mais c'est vrai que c'est, je pense pas que ce soit eux les principaux visiteurs, les parents d'élèves éventuellement.
Et tu as commencé par ton blog. T'es venu au numérique par ton blog ? Qu'est-ce qui t'a fait venir de créer ce blog justement là ?
Le blog, il est vraiment arrivé plus tard parce que ça fait très longtemps que je suis blogueuse. C'était quelque chose de complètement différent. J'ai aussi un blog de littérature jeunesse, enfin qui chronique la littérature jeunesse. Et c'est vrai que bah, je me suis aperçue que ces deux blogs-là, ils avaient pour moi une allure de carnet de route. Ça me permet de garder des traces de tout ce que je fais. Donc c'est pour ça que naturellement, j'ai fait la même chose pour sur l'aspect professionnel quand j'ai commencé vraiment à avoir des choses qui étaient intéressantes au niveau du numérique, enfin que j'estimais intéressantes en tout cas.
Patricia, je vais te couper deux secondes. On a pas entendu tout, donc si à la rigueur tu peux couper ta vidéo, ça sera peut-être le mieux finalement, parce que ça coupe un petit peu. Hein. Je sais pas ce que tu en penses.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
De temps en temps, on te perd un petit peu. Bon, t'as pas du jeu. Alors j'ai compris que tu étais déjà blogueuse avant de créer un blog par rapport à ta pratique de classe, c'est ça ?
Ouais.
C'est ça. Hein.
En fait, je suis blogueuse depuis 2005.
D'accord.
Dans quelque chose qui n'est pas du tout pas du tout éducation quoi.
D'accord, bien compris. Alors si on peut, moi qui ai un petit peu regardé ton blog, c'est par rapport à ton blog que je t'ai contacté. Donc tu fais pas mal de capsules vidéo à destination des élèves. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Ouais. Alors en fait l'année dernière, je m'étais dit que quand même la classe inversée, c'était quelque chose qui me tentait bien, parce que justement, je trouve qu'il y a vraiment besoin. Enfin, moi en tout cas, je ressens le besoin de changer un petit peu les pratiques, de rendre les élèves plus actifs, plus. Et je trouvais que la classe inversée était un bon moyen. En même temps, c'est vrai que pour l'instant, je suis pas encore arrivée à trouver vraiment la recette qui, c'est-à-dire que. Je trouve que très souvent, ça a tendance à devenir du cours magistral, mais à la maison, quoi. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Donc l'idée, c'est plutôt de proposer. Je me suis qui a priori excède pas 3 minutes pour une notion. Donc c'est vrai que ça implique d'être assez bref. Et je fais sur des petits points de grammaire précis. Je veux dire, je prends un exemple, les classes grammaticales, le discours indirect, etc. J'utilise généralement Moovly pour le faire quand je fais ça. Et puis après, éventuellement, je monte un petit peu avec iMovie. Et en parallèle, je propose aussi, alors là, c'est comme ça me demande plus de temps, j'en fais moins, je propose des vidéos autour de, on va dire, de classiques de la littérature. C'est-à-dire, quand je donne certains bouquins à lire, je propose une vidéo qui raconte un petit peu de quoi il est question.
D'accord. Et comment t'incites les élèves à rentrer dans ce système-là ? Parce que c'est toujours ça un petit peu le problème de cette classe inversée, non ?
Alors, c'est... Ouais. Alors, y a plusieurs... Généralement, bon, on utilise Pronote, donc je le mets systématiquement en lien sur Pronote. Je leur montre quand on est en classe. J'ai essayé d'utiliser aussi Edmodo avec les troisièmes, donc c'était l'occasion de repasser encore de faire passer des liens. Et puis, j'essaie de développer de plus en plus le fait que quand je leur fais une fiche notion, j'intègre le flashcode qui est un lien vers la vidéo.
Donc on va juste reprendre pour les auditeurs qui seraient pas au fait de tout ce qu'on vient de ce qu'on vient de parler. Edmodo c'est un réseau social pour l'éducation, en tout cas il a été conçu pour cela, il ressemble pas mal au grand réseau social connu de Monsieur Zuckerberg, ne serait-ce que par les couleurs, mais en tout cas il est vraiment performant et voilà, vous pouvez créer une classe virtuelle, ajouter vos élèves et échanger donc les liens comme vient de nous le dire Patricia. Le flashcode, bon bah vous avez déjà tous vu ça, hein, ce sont ces petits ces fameux QR codes là, ces trucs qu'on peut scanner avec nos smartphones, tablettes et qui nous permettent d'arriver directement sur les ressources. Et quand on travaille avec des tablettes, moi je le fais systématiquement en classe, c'est vrai que j'en affiche un peu de partout dans la classe, je donne aux élèves, ils scannent, hop, ils arrivent directement sur les ressources en question. Voilà.
Et le retour en classe après, une fois que tu leur as donné ça à visionner, comment tu gères ce retour en classe?
Eh ben en fait c'est ça le principe, c'est-à-dire que je gère généralement on démarre souvent le cours avec une mise en commun.
D'accord.
Des connaissances et qui sont basées justement sur la vidéo qu'ils ont pu voir, qui sont pas allés, qui ont oublié, qui ont la bonne maison, un souci d'internet, que le frère, enfin. Moi, j'ai des élèves qui ont fait plein de trucs qu'il faut que. Je trouve que c'est pas hyper fiable malgré tout de dire que, enfin, de proposer. C'est pas une solution miracle quand même.
On t'a perdu un petit peu encore là sur ce coup-là, mais bon.
Ouais. C'est bon.
Alors, tu crées beaucoup de vidéos. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que tu appelles les missions sur ton blog. Alors, explique-nous un petit peu ce système-là. J'ai trouvé ça vraiment, une introduction un petit peu à ta séquence. A priori, tu l'as fait sous forme de mission.
Oui. Alors, en fait, ça c'est quelque chose que j'ai débuté cette année et spécifiquement avec mes classes de troisième, parce qu'en fait, ce sont des classes sur lesquelles je mène un projet cette année autour du roman policier. Donc en fait, je trouvais rigolo de présenter ça sous forme de mission en reprenant un petit peu l'esprit Mission Impossible. Donc, et ce que je voulais, c'était leur proposer de réaliser des tâches complexes et de réaliser ces tâches complexes en utilisant différents outils. Et alors la première mission, justement, elle était très 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 sage parce qu'en fait, elle se faisait uniquement. La présentation était vidéo, mais je réclamais des documents papier ou alors PowerPoint simplement. Et c'est vrai qu'à partir de la deuxième mission, je suis plus passée dans l'esprit réalisez-moi un reportage sur un sujet donné en leur donnant donc un certain nombre de contraintes et en leur indiquant les sites pour. Et j'ai lâché la bride aux élèves et en fait. Ce que je trouve génial, c'est qu'à chaque fois, je suis étonnée par le résultat et par ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se laisser surprendre aussi, mais il y a tout un jeu qui. Alors, je me retrouve avec des élèves qui sont en train d'enregistrer dans deux classes différentes, qui sont, et puis qui après vous donnent la tablette en disant, vous allez voir, celui-ci, vous allez l'adorer. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est vachement. Enfin, je trouve que c'est très, très agréable comme la relation aussi qui s'établit. Alors, je dois ajouter aussi que je travaille pas mal avec ma collègue documentaliste qui est dans le même état d'esprit que moi et que, du coup, souvent, on arrive aussi à se partager les demi-groupes et à pouvoir comme ça gérer le tout.
Tu nous as écrit là dans les notes de l'émission que tu travaillais pas mal en écriture collaborative. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je fais beaucoup aussi en anglais. Ma question, c'est quel est ton rôle d'enseignante à ce niveau-là? C'est-à-dire, est-ce que tu interviens à distance dans l'écriture? Est-ce que l'écriture collaborative, d'abord, elle se fait forcément en classe ou est-ce qu'elle continue en dehors de la classe? Et si elle continue en dehors de la classe, est-ce que toi, tu interviens? Est-ce que tu modères? Comment tu t'insères? Quel est ton rôle, en fait, dans cette écriture collaborative?
Alors, l'écriture collaborative, elle m'a longtemps posé question parce que, justement, je ne savais pas trop comment la gérer. Initialement, je me suis dit, avec les iPads, c'est super, on va utiliser Pages, ce sera mis en commun, et puis voilà. Et puis, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, ne serait-ce que par les soucis de connexion Wi-Fi qu'on peut avoir, qui font que ce n'est pas aussi immédiat que ça. Alors, cette année, je reviens sur mes troisièmes où on est dans ce projet de classe à Pâques parce que l'objectif final, c'est l'écriture d'un roman policier collaboratif. Et donc, du coup, il fallait que... le principe, c'est que j'ai 31 élèves dans une de mes classes. Ils sont divisés en 10 groupes et chaque groupe écrit un chapitre. Donc le chapitre, il est écrit à six mains, si on peut dire, puisqu'ils sont ils sont en moyenne trois par groupe. Et on a établi ensemble, en classe, on a fait un canevas très prédéfini de l'intrigue, de ce qui devait du découpage. On a fait un synopsis, ce qui doit se trouver dans chacun des chapitres. Et ensuite, chaque groupe écrit, sachant qu'ils écrivent donc en classe, parce qu'on a lancé ça en classe, mais ensuite, ils ont à terminer à la maison. Et pour avoir à terminer à la maison, il fallait donc que j'utilise un logiciel d'écriture collaborative. Alors, j'en ai cherché plusieurs, et c'est vrai que le dernier que j'ai trouvé, TitanPad, a particulièrement plu aux élèves, pour deux raisons, au moins. La première, c'est justement le fait que chacun se log et a... Alors, moi, en tant qu'enseignante, ils n'ont pas besoin de rentrer d'adresse mail et tout ce genre de choses, donc ça permet de rester sur l'aspect confidentiel. La deuxième chose, c'est moi qui ai créé le pad, et la deuxième chose qui leur a plu, c'est qu'à côté du texte, il y a un chat, et donc ils peuvent échanger entre eux pendant qu'ils sont en train d'écrire et qu'ils sont à la maison. Donc voilà, et après je donne des délais, donc je dis, voilà, il faut que vous m'ayez fait terminer le chapitre pour telle date, etc. Donc ensuite, vous débrouillez comme vous voulez, vous allez au CDI, vous le faites chez vous, mais en tout cas, on écrit autant en classe qu'à la maison.
Et toi, est-ce que tu interviens par moment dans ce chat, par exemple ?
Alors, dans le chat, ils savent que je le vois, mais c'est vrai qu'a priori, je suis pas intervenue dans le chat. En revanche, sur le texte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai corrigé au fur et à mesure des jets, oui. Mais par contre, ils ont écrit et j'ai corrigé au fur et à mesure, et après, ils avaient à reprendre leur texte, à recorriger, à réétoffer, à le reprendre. Enfin, c'est un vrai travail d'éditeur, quoi, d'une certaine manière.
C'est vraiment intéressant parce que, du coup, moi, j'utilise aussi ces outils-là. J'en profite pour parler... d'un outil concurrent ou confrère, j'en sais rien, à TitanPad qui est Framapad en fait. Et Framapad, ouais. C'est voilà, c'est un peu le c'est un peu cocorico puisque c'est chez nous, c'est hébergé en France, voilà. Et puis j'encourage à utiliser les outils de Framasoft en général. Bref, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que moi je l'ai utilisé encore hier avec des sixièmes et encore aujourd'hui cet après-midi avec des étudiants à l'ESP. C'est marrant parce que tout élève confondu, ce sont des outils qui fonctionnent. Avec les sixièmes hier, on a utilisé le chat pour faire une sorte de qui-est géant à l'écrit où les élèves, je voulais justement qu'ils les écrivent ces questions plutôt que voilà, ça a très très bien fonctionné. Et puis cet après-midi, bon, pour un travail d'écriture collaborative un peu plus classique avec des étudiants qui aient beaucoup plus de niveau de langue. Et voilà, moi j'utilise vraiment le chat pour justement pointer le bout de mon nez, dire que je suis là comme une aide quand ils en ont besoin et éventuellement agir, mais pas intervenir directement sur le texte. Mais c'est bon, c'est pas tout à fait pareil. Moi, ouais, l'idée, c'est qu'ils échangent, c'est qu'ils créent de la langue. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, d'accord, très bien, super, merci.
Et donc tu fais créer pas mal de choses sur les élèves. Alors, on est dans les outils là, donc je sais que t'en as mis plusieurs d'outils. Sous quelle forme donc les élèves créent alors à partir de ces missions par exemple?
Alors, si je prends par exemple la deuxième mission, donc qui était de bosser, comme mon projet en fait, c'est roman policier architecture, on travaille autour du quartier Confluence et donc je leur ai demandé de me faire une mission qui soit un reportage sur la cité radieuse de Le Corbusier. Donc j'avais créé un Padlet sur lequel j'ai placé un certain nombre d'éléments, de vidéos, de plans, de documents. C'est-à-dire que je leur ai donné en fait les sources. Et à part, ils avaient cette matière et je leur avais donné également une feuille de route assez précise avec des éléments qui devaient absolument se trouver dans leur reportage. Et ensuite, ils devaient me restituer ça sous forme d'Adobe Voice. Donc certains ont imaginé une rencontre avec la petite fille de Le Corbusier, enfin bon, ce genre de choses. Mmh. Et j'ai compliqué ça, si on peut dire, pour la mission suivante, la fameuse, celle qui était sur la mission monstre, parce que justement, c'était pour aller toujours dans l'esprit du roman policier, c'était trouver une espèce de serial killer. Donc là, je leur demandais d'intégrer, d'avoir un Adobe Voice et d'intégrer aussi des morphos, c'est-à-dire donner la parole à leur monstre. Et ensuite, ils sont allés donc faire le montage sur
iMovie. Alors, Morpho, vas-y, dis-nous un peu plus.
Alors, Morpho, c'est un logiciel qui plaît beaucoup, enfin, qui plaît beaucoup aux profs de français. Je sais que mes collègues d'anglais l'ont pas mal utilisé aussi. Le principe, c'est qu'en fait, on anime une image et on la fait parler. Donc, j'avais fait ça l'année dernière, je bossais avec mes quatrièmes sur l'enfance au 19e siècle. Et Victor Hugo, j'avais animé l'image de Victor Hugo, j'avais modifié ma voix et Victor Hugo leur expliquait ce qu'il fallait faire. Donc, ils avaient trouvé ça très inquiétant d'ailleurs, de voir Victor Hugo bouger.
Et donc tu diffuses hein, tous les travaux d'élèves?
Pas tout.
Pas
en
tout.
fait, je diffuse généralement sur mon blog d'abord les choses où il n'y a pas d'images d'élèves qui apparaissent. Parce que ils sont, enfin, j'ai remarqué que notamment en quatrième, troisième, ils aiment bien se prendre en photo et s'animer, etc. Donc en fait, ça, ils savent, si à partir du moment où ils mettent des photos, avec des images d'eux, je diffuse pas. Et puis c'est vrai que très souvent, ces travaux, ils donnent toujours lieu à une évaluation qui va être une évaluation collective en classe. C'est-à-dire que oui, j'évalue, oui, je note, mais en même temps, je leur demande à eux, avec la même grille d'évaluation et en groupe, de s'auto-évaluer.
Ah, d'accord.
Et donc du coup, à chaque fois, on détermine quels sont les 3 ou 4 qu'ils estiment être les plus valables, c'est-à-dire les plus dignes de diffusion.
D'accord. Guillaume?
Ouais, je voulais juste revenir sur sur quoi du coup j'ai zappé. Ça va me revenir. Oui, tu nous parles aussi de Socrative, donc on rappelle rapidement. Socrative, c'est un outil qui permet un petit peu d'évaluer ses élèves grâce à des tablettes, des ordinateurs, des smartphones rapidement, hein, et centraliser un peu les questions. Comment tu l'utilises toi en classe?
Alors je l'ai utilisé cette année pour des contrôles des vérifications de lecture en fait, parce que Socrative, tu peux, alors soit tu fais tes questions directement sur la tablette, soit tu crées ton fichier Excel qu'ensuite tu charges sur les tablettes, ce qui fait qu'en fait j'ai pu faire des questionnaires de lecture qui étaient assez pointus, qui pouvaient avoir une quarantaine de questions et donc bah voilà, mais moi ils ont généralement un livre à lire pour chaque vacances et donc du coup la lecture elle est évaluée comme ça.
D'accord.
D'accord, okay. Tu l'utilises comme un formulaire en fait. Ouais.
Ah, là, j'utilise comme un formulaire, oui.
Alors, pareil, si on reste encore dessus, je vois que tu utilises une application qui en ce moment qui est un peu la mode, on entend un peu partout, c'est Plickers.
Ah oui.
J'en ai vu il y a mardi au printemps d'innovation à Lyon, j'en ai beaucoup parlé aussi. Plickers, alors si je l'explique rapidement, hein, c'est le même. C'est du vote, ils ont des petits codes dans la main, les élèves, ils vont pouvoir donner une réponse, A, B, C, D. Hein.
Ouais, voilà, ce que j'ai appelé, c'est un petit peu le retour de l'ardoise
qu'on
devait connaître en primaire, quoi, en fait, c'est ça. Donc vraiment, Plickers,
comment, toi,
c'est... Moi, je l'utilise, alors d'abord, je ne l'utilise pas systématiquement, et je l'utilise comme, on va dire, le gadget de début de cours qui permet de réactiver les notions vues la fois précédente. J'en ai un truc tout bête, on a bossé sur le COD, bon, le cours suivant, on va démarrer avec 3 questions qui sont qui vont porter là-dessus, enfin 3-4 questions, c'est dans cette idée-là. Je l'utilise vraiment. Enfin, je peux pas. Ça dure 5 minutes mon travail sur Plickers, quoi. Ouais, d'abord parce qu'on est limité par les possibilités, et puis parce qu'après très vite il y a le côté. Je demande à mon voisin ce qu'il est en train de ce qu'il va répondre pour répondre la même chose, quoi. Mais bon, c'est. Moi je trouve que c'est assez sympa, plus sur les petites classes d'ailleurs que sur les grandes, parce que je pense que ça les dépayse moins justement de ce qu'ils ont pu connaître précédemment. Mais bon, ça me permet aussi de tester, genre j'ai donné 3 chapitres d'un bouquin à lire, je pose 3-4 questions dessus pour voir ce qu'il en est. Puis c'est l'occasion aussi, je reviens sur la réactivation des notions, c'est que c'est l'occasion de vérifier que justement tout a été compris ou pas, c'est-à-dire qu'on voit en fonction du nombre de questions et on peut revenir sur une notion avant de repartir sur autre chose.
Ouais, tu peux faire de la remédiation, des choses comme ça.
Ouais.
D'accord. Non, et puis c'est bien, enfin Plickers, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait t'as très peu de matériel, on peut faire des choses...
Exactement.
Pas besoin de tablette, juste un petit smartphone dans la poche et c'est tout.
Et ça suffit, oui. Une fois que. Moi, en plus, au début, je m'étais dit, je vais garder les cartes et puis je leur distribuerai à chaque fois. Et en fait, ils m'ont dit, non, vous nous faites un exemplaire, on le garde toujours avec nous dans notre classeur. Et donc, à la limite, s'ils n'ont pas leurs Plickers en début de cours, ils sont tout dépaysés.
D'accord. On peut même faire un total anonymat aussi, hein. Ça peut être
aussi
intéressant.
Oui.
C'est-à-dire.
Eh bien, qu'il n'y ait pas les noms qui s'affichent, moi, c'est
souvent ça. Ah oui, aussi, Mais moi, en fait, je fais les noms s'affichent quand comment enfin ils s'affichent pour moi, mais pour eux, en fait, ils s'affichent pour voir simplement s'ils ont voté ou pas. Mais ensuite, quand je fais la publication des réponses, c'est uniquement avec le graphique. Donc, en fait, les noms apparaissent pas.
N'apparaissent pas, ouais, tout à fait.
Non.
Donc, du coup, en fait, tu peux juste demander à B, C ou D, en gros. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Ouais,
ah ben, Plickers, c'est ça. Il y a rien d'autre. Hein.
Ouais. Ah ouais, non, mais c'est tout. Il y a 4. Tu vas jusqu'à 4 possibilités, et puis voilà quoi.
Ouais.
Mais en même temps, toi, tu sais qui n'a pas répondu juste. Par contre, parfois, quand il y a un mouton noir dans le truc, ils sont tous en train de se regarder en se demandant qui a bien pu répondre.
Et la taille des papiers est importante ou
Moi, ils ont des.
Format 4, non?
Ouais, mais même pas. Moi, en fait, j'en ai mis 2 par format A4.
Donc, de la 5.
Ouais.
Je sais pas si c'est clair pour ceux qui nous écoutent, hein, mais.
Ouais, non, peut-être pas, effectivement.
Il y a un article sur mon blog dessus, pour aller voir.
Oui, j'ai vu, ouais, très.
On va faire une spéciale Plickr un jour.
C'est ça.
En quoi ces outils que tu utilises ont aidé tes élèves à développer leurs compétences de production écrite, de lecture, si ça les a aidés, bien évidemment.
Alors, ce serait peut-être présomptueux de dire que ça les a aidés, mais je pense quand même que ça, en tout cas, une chose, c'est que ça les a décomplexés par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que, je veux dire, maintenant, quand je leur demande, enfin, généralement, quand je demande de rédiger quelque chose, alors c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai tendance à leur dire, vous écrivez, on verra après pour les fautes. C'est-à-dire, écrivez d'abord, on corrigera ensuite. Mais c'est vrai que, quand ils écrivent, alors ils écrivent sur papier, bien sûr, parce que c'est une remarque qui m'a été faite la semaine dernière, mais quand ils écrivent sur tablette, bon, ben, ils savent qu'ils auront le correcteur, mais en même temps, dans la vie réelle, ils vont aussi avoir le correcteur. Je leur avais aussi donné un site, là, que j'ai plus en tête, où en fait, tu copies-colles ton texte et on te propose on te liste toutes les fautes, que ce soit des fautes de ponctuation, de grammaire, d'orthographe, avec des couleurs différentes selon le type de faute. Et ça, c'est drôle parce que cette année, j'ai des troisièmes que j'ai eu en quatrième et qui, dès le début d'année, m'ont dit « Vous allez nous redonner le site. » Donc, c'est un outil qu'ils avaient intégré. D'accord. Moi, je trouve que ça les a décomplexés par rapport à l'écriture, ouais.
Bon, si tu te rappelles de ce nom-là, ça nous intéresse.
Je vais vous le retrouver.
Alors, t'as mis beaucoup de services, d'applications. Donc là, c'est uniquement des applications. T'es totalement sur ta tablette, hein, c'est ça?
Oui, ouais, c'est beaucoup sur tablette. Bah, faut dire qu'en fait, on a une salle info, mais on a une salle info, c'est-à-dire qu'elle a à peu près, c'est compliqué. Elle a 28 ordi, moi j'ai des classes à 31 cette année, donc déjà rien que ça pose souci. Les ordinateurs sont rudimentaires pour un certain nombre. Je suis pas la seule à vouloir aller en salle info, on est 40 profs, il y en a quand même bien une bonne vingtaine, une quinzaine qui régulièrement y sont inscrits. Donc c'est vrai que la tablette, ça permet d'avoir l'outil et de l'emmener dans ma salle de classe quand je suis pas au CDI et donc de pouvoir travailler un petit peu partout.
Je sais pas si tu as dit le nombre d'iPad que tu as.
On a été doté de 30 iPad mini.
30 iPad mini, d'accord. Ouais. Donc, que vous partagez dans l'établissement.
Bah, en fait, il y a une mallette qui est conservée au CDI et on a mis en place une possibilité de réservation et on s'inscrit via IBAU comme pour la salle info, en fait.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que avec une question un peu bête, enfin pas bête, mais est-ce que pour l'instant, est-ce que tu vois des utilisations qui ne t'ont rien apporté, dans le sens où est-ce que tu te dis bon, j'ai testé des choses et finalement je m'aperçois que ces tablettes, ces trucs, pour l'instant je m'en servirai pas ou je vais revenir à une ancienne formule, enfin voilà quoi. En se faisant un peu l'avocat du diable, est-ce qu'il y a des choses qui vraiment te déconcertent, te disent non, ça marche pas, c'est du gadget et ça doit en rester là.
Aller jusqu'à gadget, peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce que j'avais mis, c'est quand j'ai découvert l'application Telegami, je la trouvais plutôt intéressante, le fait de. Et puis, en fait, finalement, je m'aperçois que je m'en sers, que je trouve que ça tourne en rond, quoi, que c'est assez. En tout cas, pour moi, dans ma pratique et dans ce que je vais faire aux élèves, c'est très très limité, elle me sert pas à grand chose si je devais prendre cet exemple là. Je reviens aussi au début, je me suis bien penchée sur tous les outils type Teacher Kit et tout ça, et finalement je trouve que c'est un peu des usines à gaz et qu'en fait avec Pronote.
Qu'est-ce que tu appelles Teacher Kit alors?
Teacher Kit, vas-y. Teacher Kit, c'est une application moi aussi sur laquelle je m'étais rué, puisque au début de l'arrivée de ces tablettes, j'avais cet outil-là et j'avais envie de l'utiliser et d'avoir un peu toutes les données de mes élèves sur ma tablette. Donc en fait, Teacher Kit, c'est un peu comme Classe Dojo pour ceux qui connaissent.
Ah, ouais. D'accord.
Voilà, on peut avoir tous nos élèves, on peut même faire l'appel et tout ça. Moi, j'utilise beaucoup Classe Dojo par exemple parce que j'aime bien le petit côté.
Voilà, le jeu quoi.
Ouais.
l'école, on clique dessus, on met des bons points, des moins bons points, ça marche avec plein d'élèves et cette année, il y a pas mal de gamins qui vont voir en fait. Donc moi, je m'en sers vraiment pour les oublis, je m'en sers pour les bons points quand il y a une bonne attitude, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est des systèmes qui proposent plein d'options et nous, on utilise quand même déjà beaucoup de choses avec nos ENT, donc Pronote. Si on cite la marque ou même les autres ENT qui existent, donc du coup ça fait toujours un outil en plus quoi. C'est-à-dire qu'en gros il faut vraiment que nos ENT puissent être adaptés bientôt à ce qui va arriver, hein, tablette, tout ça. Parce que j'aime bien quand même le fait de pouvoir l'avoir sur la tablette, c'est plus transportable, on l'a partout, voilà. Mais finalement ouais, c'est un petit peu au final c'est un peu des gadgets. Je suis assez d'accord là-dessus sur les tablettes. Ouais.
J'ai trouvé le logiciel, c'est Scribence, le site en ligne.
D'accord, je le mettrai sur les notes de l'émission celui-là.
C'est ça.
Tout à fait, oui, Scribence. Ouais.
Alors, j'ai vu que c'est un projet, une classe à Pâques, a priori, où tu fais vraiment, où tu développes le plus le numérique. Mais est-ce que justement, ça en profite, tu fais profiter aussi les autres niveaux, les autres classes?
Non, en fait, je le fais sur. Là, c'est vrai que les missions, elles étaient sur les troisièmes qui étaient la classe à Pâques. Mais je l'utilise. Moi, cette année, j'ai des sixièmes, des quatrièmes et des troisièmes. Mm-hmm. Et j'utilise les tablettes avec les sixièmes, avec les quatrièmes, avec les troisièmes. Par exemple, en ce moment, les quatrièmes sont en train de travailler autour des Misérables de Victor Hugo. Et donc, je leur ai demandé d'adapter un extrait des Misérables qu'on avait. Enfin, ils avaient au choix deux extraits, de les transformer en pièces de théâtre, de proposer une mise en scène et de s'enregistrer en intégrant images et textes pour restituer ça sous forme de dialogue et d'images. Les sixièmes, ils m'ont fait des morphos autour de Molière en début d'année. Donc, j'utilise avec toutes les classes.
Toutes les classes. Ouais, justement, en plus, il y a une super vidéo que tu as faite il y a pas longtemps, là, Les Misérables en 10 minutes.
Ouais.
C'est génial, j'aurais eu ça quand j'étais gamin.
Oui, non, mais voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est un truc qui m'attire des regards très courroucés de la part de certains de mes collègues de français, parce qu'évidemment, on me dit, mais ils vont plus les lire. J'ai dit, mais de toute façon, ils les lisaient pas. Enfin. Je veux dire, il y a peu de gamins en quatrième qui lisent les Misérables dans leur intégralité, de toute façon. Donc, si on peut leur donner des pistes pour leur dire voilà de quoi ça parle, j'ai fait la même chose pour le site parce que c'est pareil. Je reçois des tonnes de messages d'élèves qui me disent merci, ça nous évite de le lire. Ce qui n'est pas complètement le but. Enfin, quand même, voilà.
C'est d'accord. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a quelques collègues qui ne doivent pas être. Ils ne doivent pas aimer ça, non.
Non, c'est ça. Mais bon.
Bon, bah écoute, merci pour toutes ces infos super enrichissantes.
Merci. Ouais.
Et juste une dernière chose, j'ai vu que tu utilisais pas mal aussi les cartes mentales aussi.
Oui, oui.
Pourquoi et dans quel but en fait?
J'utilise pour tout en fait les cartes mentales. C'est une collègue d'histoire-géographie qui m'a fait découvrir ça il y a 4 ans. Et c'est vrai que du coup on a bossé ensemble, c'est-à-dire qu'on s'était mis un petit peu une classe test qu'on avait toutes les deux et on a dit on va les faire travailler on va essayer d'intégrer les cartes mentales à notre pratique. Et puis du coup c'est quelque chose qui a pris. Donc en fait je les utilise en littérature justement quand je trouve que c'est une autre manière de faire une fiche de lecture, c'est-à-dire qu'en fait je leur demande de me rendre compte d'une lecture sous forme de carte mentale avec les événements, les personnages, les lieux, etc. Je l'utilise en grammaire parce que justement quand je disais tout à l'heure quand on fait le point sur une notion, généralement la notion après on la remet sous forme de carte mentale. Je l'ai utilisé l'an passé parce que l'an passé j'avais une classe PAC en quatrième autour de l'enfance et du labeur au 19e siècle où on en a travaillé sur le quartier de la Croix-Rousse et autour sur des portraits de personnages on a utilisé les cartes mentales. Et ce qui est drôle en fait c'est que je m'aperçois que c'est les élèves ont intégré ça quand j'ai attaqué l'argumentation avec les troisièmes. Il y a un certain nombre qui m'ont dit on peut bien faire ça avec une carte mentale. Je dis oui. Donc voilà. Mais en même temps, c'est vrai aussi que c'est une structure qu'il faut adopter, quoi. Donc pour certains, c'est immédiatement naturel et pour d'autres, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et là, en revanche, j'utilise quand je suis en classe Framindmap en ligne.
Et quand tu les fais, uniquement numérique ou tu fais aussi le papier aussi?
Non, on fait tout en fait. On fait papier. Souvent, en fait, je distribue des A3 aux élèves, donc qui aura à le faire papier. Et puis après, quand on centralise en classe, donc comme je n'ai pas encore d'Apple TV qui me permet de projeter l'iPad, je fais avec mon ordi et donc j'utilise Framindmap. Et puis ensuite, pour certaines. Je peux les mettre plus au clair en utilisant des applis de l'iPad. Mais on est aussi très. J'en ai plein qui adorent faire ça sur papier avec les petits dessins, avec le fluo de partout. Ça marche bien aussi.
Mmh, ça marche bien aussi, tout à fait.
Ouais.
D'accord.
Voilà.
Guillaume, t'as d'autres questions ?
Non, pas dans l'immédiat. Ça a été, Patricia, super complète, vraiment. Moi aussi, je me dis que j'aurais bien voulu avoir des cours de français. Comme cela, voilà.
Justement, point de vue formation, oui. Tiens, vite fait, avant oui. de finir, pour la dernière.
Ouais.
Comment tu te formes? Comment tu cherches? C'est juste des trouvailles? C'est juste
l'envie? Je me débrouille toute seule, ouais.
Quoi, toute seule?
Non, en fait, toute seule, non. C'est ce que je disais, c'est quand même beaucoup dans l'échange. Donc, j'ai une collègue doc qui est très branchée aussi nouvelles technologies. Donc, on travaille pas mal ensemble, on cherche ensemble, on est beaucoup sur Twitter à repérer des nouvelles choses. Oui, on se renseigne, mais c'est vrai qu'on se forme par nous-mêmes, quoi.
Par nous-mêmes, d'accord. Bon, tu en parles souvent, ta prof doc, tu peux, ouais. Tu peux donner son nom.
Ouais, Caroline Guédan. Elle a un d'accord. Twitter aussi, donc. Mais voilà, on travaille beaucoup. Non, mais en plus, si jamais je la citais pas, elle me maudirait. Donc de toute façon.
Voilà.
Non, mais on construit beaucoup. Enfin, c'est vrai qu'on construit beaucoup de choses ensemble.
D'accord. Voilà. Très bien. On a fini sur le parti invité, Guillaume.
Oui, je crois.
On passe à la question, à la 3. Alors, je ne sais pas si tu as mis quelque chose, donc notre partie pour parler d'autre chose. Je ne sais pas si tu as mis quelque chose, Patricia, ou tu as pensé à quelque chose. On met toujours.
Non, j'ai rien qui m'est venu comme ça.
Rien qui t'est venu comme ça.
Non, mais ça peut. En vous écoutant, je peux avoir des pistes. Hein, donc,
Guillaume, tu avais quelque chose là-dessus?
Vas-y.
Ah ben j'ai rien prévu moi là-dessus, tu m'embêtes.
Moi j'avais prévu quelque chose mais je suis en train de rechercher parce que je l'ai pas à côté de moi. Voilà, moi je suis un grand fan de Bruce Springsteen, musicien américain. Ah bah tu vois, voilà, ça tombe très bien. Et récemment une énième, on pourrait dire, biographie est sortie, préfacée par Antoine Decaune, parce qu'on sait moins d'Antoine Decaune, c'est que c'est un grand fan de Springsteen, de Mark Knopfler, de musique en général. Sa fille a animé aussi de nombreuses émissions, lui aussi d'ailleurs, en Angleterre aussi. Et donc une biographie très très récente vient de sortir, mais malheureusement j'espérais que tu aies quelque chose à dire, mon cher Jeff, pour que je puisse aller dans ma bibliothèque pas très loin à la chercher pour vous donner le nom de l'auteur, mais on le mettra dans les notes de l'émission. Elle est sortie il y a pas très très longtemps et elle a le mérite de condenser en fait un petit peu de nombreuses autres biographies qui ont été écrites sur lui, qui résument quand même bien l'homme, la carrière, et elle s'appelle tout simplement Bruce. Et voilà quoi, elle est vraiment 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 à lire, et je suis désolé de ne pouvoir citer l'auteur, mais on le rajoutera dans les notes.
Alors je l'ai, je crois, Peter Anskarlin, c'est ça?
Voilà, exactement. Voilà. Merci
Google.
C'était plus vite que moi sur le sur la recherche.
Bon.
Non, allez-y, écoutez-le. Il est passé en France il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui ne connaissent pas Bruce Springsteen. Pour les anglophones, bien évidemment, mais surtout les anglophiles, voilà, ces textes sont quand même vraiment magnifiques et je vous invite tous à le lire et l'écouter.
Ok. Quelque chose qui t'est venu, Patricia, ou non? Non.
Non, j'étais juste en train d'acquiescer devant mon ordi à propos de Bruce Springsteen. Je suis complètement d'accord là-dessus. Il a été desservi, à mon avis, par le fait qu'il avait éclaté en France avec Born in the USA et que tout le monde est resté sur ce gros truc, alors que c'est quand même complètement. C'est tout autre chose que ça, et qu'en plus, Born in the USA, c'est justement pas du tout ce qu'on a voulu en faire.
Et pour la petite histoire, ce morceau avait été repris du coup pour la campagne de Reagan, je crois, de Reagan, et ou d'un autre.
Ou de Bush peut-être.
Peut-être de Bush senior, ouais, effectivement. Plutôt Bush senior, oui, parce que Reagan, c'était certainement pas sorti. Je dis une grosse bêtise, ouais, plutôt Bush senior. Et en fait, il avait démenti ensuite. Il avait dû se fendre d'explications parce que pour expliquer que justement, c'était plutôt ironique et que c'était pas du tout. Ce que Bush senior voulait en faire, voilà.
Complètement.
Bon, alors s'il faut juste trouver quelque chose, j'ai quelque chose qui me brûlait. Moi, je suis un grand fan de Game of Thrones. Game of Thrones arrive le 13 avril, la saison 5. Et pour les grands fans, il arrive, si vous êtes abonné sur OCS, ça arrive en en direct, en même temps que les États-Unis. Alors, il faut se lever un petit peu tôt, c'est à 3 heures du matin. Mais pour les grands fans, ça peut être pas mal. J'ai hâte, en tout
cas. J'ai une question, Jeff.
7 avril. Ouais.
Toi, bien sûr, tu es abonné au CS.
Oh, bien sûr.
Bien sûr. très bien. C'est tout, voilà. Ma seule question.
Non, mais c'est bien. Non, mais c'est pour une fois, voilà, c'est peut-être pour indiquer le piratage, mais. C'est bien.
Direct à
direct et après à il sera en, après ouais. il sera en H24 donc ça veut dire 24 heures après.
Donc, ouais. Mais je trouve ça bien maintenant pour le coup qu'ils fassent ces efforts là de diffuser en direct des trucs. C'est pas mal, ça peut peut-être éviter ouais, tout à fait. C'est un peu dommage après que voilà toutes ces offres soient multipliées, enfin c'est dommage. Ouais, je comprends bien pourquoi, hein, mais en fait vous êtes obligé, si vous voulez vraiment pas pirater, jouer le jeu et voilà. Pour parler rapidement de ça, hein, moi je fais partie de ceux qui sont abonnés à Netflix, notamment pour les séries et puis les vieux films aussi. Comme ça, on a envie de regarder un film, on cherche pas à télécharger forcément. Mais toutes les séries récentes, eh ben, les droits sont acquis ailleurs. Et même des séries produites par Netflix aux États-Unis, comme House of Cards, elles ne passent pas à Netflix France, puisque Canal+ avait acheté les droits. Donc, j'ai l'impression d'être dans la Ligue 1, moi, comme au foot, en fait.
Tu ne pourras pas voir Game of Thrones, ça, là.
Eh ben, non, je ne pourrais pas le voir. Je vais être obligé d'attendre 6 ans que ça passe sur les chaînes hertziennes.
Donc, voilà, c'était juste pour citer Game of Thrones. Voilà.
Tout à fait. Merci, en tout cas. Jeff, pour le générique de fin, Patricia, pardon, dis-nous tout, si on veut te contacter, te suivre, comment on fait?
J'ai mon fil Twitter, donc pbonard1. Voilà, j'en ai aussi. C'est vrai que tout à l'heure, on m'a fait la remarque en me disant que j'en avais deux, parce que c'est vrai qu'initialement, j'ai fait aussi un fil Twitter pour plus spécifiquement pour mon blog. Et puis en fait, je me rends compte que d'abord c'est très doublon, et puis je suis un peu, comme diraient les élèves, je suis un peu pareil dans la vie que dans la classe, donc du coup finalement je peux avoir le même fil, c'est pas absolument dramatique. Et donc sinon j'ai une page Google+, toujours pareil, Patricia Bonnard, et puis le site, donc le français c'est pas de dédictée.
Voilà. Et tu avais peut-être d'autres sites, hein. Profites-en si tu veux.
Ouais, mais les autres sites, je les utilise plus tant que ça, en fait.
Ok.
Non, mais si, enfin, je veux dire, ma cuisine rouge, il tourne toujours, mais je publie plus dessus. Et sinon, le site de littérature jeunesse, c'est S'il était encore une fois. Où là, oui, je publie régulièrement en fonction de ce qu'on. Ben, en fonction du temps que j'ai, en fait, aussi.
Accessoirement. Ah, mais là, c'est toujours pareil.
C'est pareil.
Voilà, c'est ça.
Ok, ouais. Pour nous, c'est toujours donc tous les 15 jours et sur eTeachers.fr. Vous pouvez nous laisser des petits commentaires. On n'a pas eu du tout pour l'épisode précédent. N'hésitez pas, hein, sur le site eTeachers.fr, on peut laisser un petit commentaire ou alors via les réseaux sociaux, hein, Facebook, Google+, ou notre Twitter, c'est @jeff8342. Et juste avant. Si vous voulez aussi suivre un peu notre veille, on essaie de faire, on est 4 à faire notre veille via l'outil Flipboard. Il suffit d'aller sur eTeachers.fr, cliquer sur veille et vous allez avoir toute notre veille. Et si vous voulez louper aucun épisode aussi de eTeachers, il suffit d'avoir un smartphone de n'importe quelle marque et de n'importe quel OS, prendre un petit logiciel de podcast. Vous recherchez eTeachers et vous vous abonnez. Comme ça, tous vos épisodes, vous ne loupez aucun épisode. Voilà. Guillaume, pour te contacter.
Eh ben, c'est toujours mon adresse Twitter compliquée, à savoir Willow, W-I-2-L-O, _, donc le tiret du 8, Teach, T-E-A-C-H. Voilà, je suis sur Google+, également. Vous pouvez me trouver par mon nom et mon prénom. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit, hein.
Voilà. Merci en tout cas, Patricia.
Merci à vous de m'avoir invité.
Avec plaisir. Jeff, on se revoit dans 15 jours, a priori.
Dans 15 jours, ouais, tout à fait.
Merci à tous.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Bonsoir.